Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour à tous, chers lecteurs et passionnés de lecture, j'espère bien. Alors, aujourd'hui, nous allons vous permettre de découvrir, allez, je suis sûr que certains d'entre vous connaissent déjà, une auteure régionale dont les livres sont de plus en plus, on en parle de plus en plus à chaque fois, Anne Bourrel. Bonjour Anne.
Bonjour.
Voilà, alors nous allons parler. Alors il n'y a pas de nouveauté très récente, hein, le dernier livre remonte
à
près
aussi.
D'une année. Oui, de temps en temps, les livres, ça ne se fait pas tout seul, faut les écrire en plus.
Non, acquittez-vous, mon bon monsieur.
Voilà. Et puis, donc on va parler un petit peu de l'ensemble de votre travail. Et puis, une lectrice fidèle va vous titiller un petit peu pour échanger avec vous sur vos différents livres. Bonjour Françoise Jarousse.
Bonjour.
Voilà, alors, on va commencer peut-être par le dernier paru, il y a un petit peu plus d'un an déjà, à la Manufacture de Livres, et qui s'intitule...
Le dernier invité.
Le dernier invité. Notre dernier invité étant Anne Bourrel, non. Bon. Voilà, c'est le titre du livre, Le Dernier Invité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas, qui veut commencer qu'est-ce que vous préférez qu'on dise? Auteur, autrice
Alors là, vous faites comme vous voulez. Vous
comme je veux, décidément, je fais tout comme je veux, c'est formidable.
Moi, j'aime bien dire que je suis écrivain.
Écrivain.
Parce que je me suis construite comme ça, sur cette image de l'écrivain avec le stylo comme une arme, enfin... Voilà, c'est la mythologie intérieure qui n'a rien à voir avec les débats actuels, mais dans ma tête, je suis écrivain. Après, vous pouvez le mettre au féminin, ça me va aussi.
Non, mais on va garder écrivain, c'est très bien écrivain, et puis j'aime bien ce côté...
Ça sonne bien, quoi.
Et puis,
parce que bon, que je suis une femme, ça se voit. Alors, je peux dire que je suis écrivain.
Je confirme. Voilà, donc écrivain et avec comme arme
le stylo.
Ah, c'est bien ça.
Oui. Et ce côté combattant, on le sent très bien dans tous les romans de Anne et également dans son œuvre théâtrale, puisqu'elle n'écrit pas seulement des romans, mais aussi du théâtre, et est en train, m'a-t-elle dit, d'écrire un scénario pour le cinéma. Voilà, donc elle a plusieurs cordes
donc
à son arc.
Donc en effet, il y a du travail sur la
table. Oui, il y a du travail sur la planche et un roman aussi à construire. Je viens d'avoir une bourse du CNL, donc je suis toute contente. C'est
CNL,
la première
donc le Centre National du Livre.
Centre National du Livre, c'est la première que j'obtiens. Et voilà, je profite un peu de quelques semaines encore où je glousse. et puis après, il faut que je me mette à ce travail-là aussi.
Et après, au boulot.
Ouais. Donc j'ai les deux choses dans la tête, là, et le scénario me prend beaucoup d'espace.
Alors, je suggérais qu'on commence par ce dernier livre. Alors, on va faire de façon atypique. Françoise, ce dernier invité, qu'est-ce que tu en dirais?
Je dirais que c'est un roman très fort, que ce dernier invité... Comme toujours à la Manufacture des livres, la couverture interpelle. Et la photo de cette petite fille et de cet homme à moitié caché derrière interroge véritablement. Et en fait, Anne, elle nous amène, comme dans tous ses livres, dans un village de la région, bien ancré dans la région.
Mais cette fois-ci imaginaire, excusez-moi de vous couper.
Oui, imaginaire, mais bien réel.
Oui, composé de plusieurs, plusieurs endroits.
C'est recomposé à partir de plusieurs villages réels, bien réels, mais...
Tellement bien, il est emblématique, tellement bien recomposé qu'il nous parle véritablement. Et c'est un village qui a un côté immobile, avec un maire Front National...
Oui.
des gens qui ne veulent pas bouger, qui sont attachés à leur terre, mais tellement attachés que c'est un monde qui est clos. Et l'héroïne qui va se marier, hein, puisque le roman se déroule le jour de son mariage, elle est vivante. Et elle est tellement vivante qu'elle elle est passionnée par la course à pied et elle court. Hein. Elle a gardé son nom d'enfance, hein, puisque c'est la petite. Hein. Et dès le début du roman, elle court et elle court dans un environnement qu'on connaît bien, hein, où il y a la garrigue, les odeurs. Enfin, tout ça est extrêmement prégnant. Et prégnant, mais en même temps étouffant. Hein. C'est un monde qui a un côté étouffant.
Tout à fait. Je tourne autour de la thématique de l'étouffement, justement. Mm-hmm. Le personnage s'appelle Malaval, la famille Malaval, parce que bon, voilà, ils ont ou ils vont malavaler quelque chose.
Ah oui, en effet, j'avais pas pensé à la symbolique de.
Oui, c'est ça, c'était mon petit clin d'œil.
Non, oui. Ouais. Et dans ce village à l'atmosphère étouffante, avec l'odeur en plus des entêtantes des bergamotiers. Hein, enfin, puis il n'y a pas que ça, hein, mais qu'on retrouve tout au long du roman. Et puis il y a des secrets, hein, dans cette famille. Et puis il y a le secret qu'a caché en elle-même la petite et qu'elle essaie d'exorciser un petit peu en courant. Enfin, alors c'est extrêmement charnel, c'est extrêmement fort. Et l'écriture, elle rend extrêmement bien. Tout, hein, la force du personnage, le côté étouffant de cette atmosphère, de la vie de ce village qui ne bouge pas, avec son café, avec cette mère aussi qui est quand même un petit peu particulière.
Bertrand de Malaval. Oui. Là aussi, son nom, ça sonne comme une malédiction. Oui. Quoi. Bertrand de Malaval. Oui. Moi, elle me fait un peu, elle me faisait un peu frissonner quand j'écrivais.
Oui, on a l'impression d'un nom de grand inquisiteur, ouais, ou voilà, je ne sais quoi, ça, quelque chose comme ça.
Oui, parce que c'est une silhouette, hein, cette mère dans le roman, mais extrêmement forte et elle a un côté sorcière, hein, oui. Cette mère. Mm. Et un comportement un peu particulier. Ouais.
Alors tous ces personnages très sombres, très, très, très lugubres même, sont contrebalancés par certains autres qui sont très lumineux. Donc Gianni, c'est lui qui me fait rire, j'espère qu'il fera rire aussi, mais moi il me faisait rire. Il est tout le temps en train de faire des blagues, et d'ailleurs il fait vraiment de grosses blagues qui parfois échouent. Et j'aimais bien dans cette construction qui était quand même assez douloureuse à restituer. Il y avait Gianni qui était le soleil, un peu la lumière.
Oui, effectivement. Oui.
Alors quand je vous entends, moi je ne l'ai pas lu, hein, le dernier invité. Par contre, je suis en train de terminer le précédent, il me reste quelques pages à lire. L'invention justement. De la neige. Et je trouve, je retrouve de commun ce côté, ce milieu fermé, cette campagne isolée, avec. Oui, il y a quelque chose d'un peu pesant, avec des. Oui, il y a des taiseux, hein, c'est des gens qui ne parlent pas forcément beaucoup, mais.
Ils parlent, mais souvent, pas, ils disent pas ce qu'ils ont à dire, ils disent autre chose.
Voilà, c'est, ça prend toujours des détours.
Il parle ailleurs, quoi.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Alors, je ne sais pas si c'est une thématique qu'on retrouve dans le théâtre ou dans les autres romans déjà écrits ou à venir, à vous intéresser à ces milieux comme ça, un peu fermés.
Ce qui m'intéresse souvent dans les romans, c'est l'image de la famille. Donc, une famille, par définition, c'est fermé, c'est dans une maison, c'est constitué, c'est. Et puis là, il se passe des tas de choses. Donc j'aime bien cette thématique. Je vois que je la retrouve souvent, même sans le chercher, sans chercher à le faire exprès, je retombe là-dessus. Bon, y a quand même des différences entre l'invention de la neige et le dernier invité. Dans la première, la famille est moins... Dans l'invention de la neige, la famille est moins évidente. C'est une famille recomposée qui va se redécomposer. Le huis clos, il est plutôt donné par, par le lieu.
L'auberge du bonheur. Il y a des circonstances, à un moment donné, qui amènent à cette
l'auberge
situation.
L'auberge du bonheur qui existe vraiment.
Oui, alors là, on a des lieux réels. On est à l'Espérou.
On est à l'Espérou, à l'auberge du bonheur. Je m'excuse auprès des propriétaires de l'auberge du bonheur. J'ai dit qu'elle était très moche. Et elle est moche. Mais c'est parce qu'elle est moche que je l'aime autant. Voilà. Après,
un des personnages dit, on peut le vivre comme typique, quoi. Voilà.
on sort aussi de cette montagne enfermante et on va du côté de l'histoire. Donc, on sort, quoi, de ce huis clos. Tandis que le dernier invité, on y reste. On y reste tellement que moi-même, j'ai eu du mal à en sortir. Une fois le livre écrit, ça m'a fait comme quand on lit un livre qui nous marque. Moi, c'est l'écriture du dernier invité m'a beaucoup marquée. Elle m'a épuisée, elle m'a complètement mise. Heureusement que j'avais le théâtre et que j'avais autre chose à faire après. Mais j'avoue que je me suis même demandé si je pourrais écrire encore un autre roman. Enfin, je crois que je me pose toujours la même question. Mais là, plus profondément, si je pouvais écrire un autre roman après, si j'avais pas épuisé toute mon énergie. Bon, heureusement, on dirait que non. Mais voilà, c'est un roman qui m'a coûté.
Alors, il y a quelque chose qui peut paraître très réaliste dans ces livres, dans ce qu'on raconte, là, une espèce de réalisme presque, j'allais dire à la Zola, ou je ne sais quoi. Alors, est-ce que c'est bien votre... Est-ce qu'il y a ce souci de réalisme ou pas? À ce propos, j'ai envie de vous, avant que vous répondiez, de vous proposer un très court propos de Franck Bouys, qui est édité aussi par la Manufacture de Livres, qui était... à la librairie Le Grain des Mots, il y a peu de temps, vous étiez là aussi, et qui disait la chose suivante.
La littérature n'a rien à faire avec la réalité. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand on écrit, on doit s'absenter, on détruit la réalité au profit de sa propre vérité.
Alors... écoutez, c'est très marrant que vous ayez choisi exactement ce passage-là. Parce que depuis qu'il l'a dit, j'y réfléchis.
Ah oui, il vous a marqué aussi ce propos.
Non, parce que évidemment, à la Manufacture de Livres, on est tous des auteurs dits noirs. Et noir se définit par un rapport assez proche à la société et à tous ses problèmes. Donc du coup, je me dis, oui, il a dit ça, c'est vrai, mais moi, où est-ce que je me situe par rapport à la réalité? Quand je lis son livre... Née d'aucune femme, je vois ce qu'il veut dire. On est effectivement dans un monde complètement imaginaire qui frise le conte, qui se rapproche d'un récit. Tout est tellement emporté qu'on quitte le réalisme pur. Donc où est-ce que je me situe, moi, par rapport à ça? Et j'ai l'impression que je me situe pas très loin, mais quand même ailleurs. C'est-à-dire que quand j'écris, j'essaie de proposer un monde, certes imaginaire, mais qui reste collé à la réalité tout en s'en décollant. C'est-à-dire que je reste collé à la réalité, mais je veux montrer ce qu'on ne voit pas de la réalité. Je veux aller sous le tapis, ce qu'il appelle creuser. Moi aussi, je veux creuser. Mais je veux creuser à partir de la réalité. La réalité m'intéresse. Elle m'intéresse peut-être plus qu'elle n'intéresse Franck. Et donc, du coup, ça fait des livres très différents. Mais quand on s'éloigne de la réalité, ce qui est marrant, c'est que parfois, elle vous rattrape. c'est-à-dire que après avoir écrit le dernier invité, il était parti à l'impression. Je me suis retrouvée dans une maison qui ressemblait pile poil à celle que je venais d'écrire. J'en avais des frissons, quoi. C'était très étrange. Je faisais des photos et je les envoyais à l'éditeur en lui disant « il se passe un truc bizarre ». Donc, là, c'est une anecdote, mais moi, j'aime bien la réalité. Et alors, je me suis posé la question aussi en lisant Franck. Née d'aucune femme, c'est vraiment sombre d'un bout à l'autre. Puis je l'ai quasiment terminé, je vois à peu près où il nous amène. Moi, j'ai pas envie d'être aussi sombre parce que je crois vraiment à la gourmandise de la vie. J'ai cette gourmandise qui fait que la petite, elle se sort de sa sale histoire, qu'elle épouse Xavier qui est un homme lumineux. Dans toute cette noirceur dont on est capable, finalement, Franck, il va voir la couleur sombre et moi, je cherche la lumière.
Alors, cette lumière, est-ce que c'est... cette lumière, c'est aussi une présence. Moi, j'entends ça aussi. Vous intéressez particulièrement au théâtre. Alors, est-ce que c'est peut-être un saut audacieux.
Bravo.
Non, mais sur la lumière, puis sur ce côté de présence, d'ouverture, tout d'un coup, voilà, quelque chose qui est charnel, qui est vivant, quoi.
Oui.
Voilà, qui n'est pas juste sombre et tout, qui est du côté de la vie. Alors, Françoise, tu as lu et peut-être vu les spectacles. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là.
Oui, Françoise, je me souviens vous avoir vu dans le public.
J'ai vu Walid Show. Et j'ai vu le dernier, Voyez Commandance, hein, qui sont à la fois, qui ont des points communs, bien sûr, ne serait-ce que par la présence de Charo. Hein,
oui, alors Charo Beltrán, oui. Núñez, c'est mon alter ego. Ma seconde, enfin, voilà, on est...
Oui, danseuse, comédienne, chorégraphe...
Argentine
aussi.
Et je ne suis pas argentine, mais
je crois qu'il y a des choses qui vous attirent du côté de l'Argentine.
Mais ça fait partie de cette lumière que je cherche, quoi. Le mythe de l'Amérique du Sud, il y a quelque chose de très lumineux, de très humain, de très charnel, de très dans la vie. Et moi, c'est ça qui me plaît. Alors, pourquoi je suis un écrivain noir? C'est parce que l'un ne va pas sans l'autre. La profondeur de l'éclat lumineux ne va pas sans la noirceur. Et puis, regardez l'Amérique du Sud, c'est exactement ça. Les gens vivent dans des conditions très, très difficiles et pourtant, ils dansent. Ils dansent avec le sourire en plus. Même le tango.
Et oui. Et bon, le théâtre est très fort. Hein. Gualicho, c'est l'histoire d'une femme qui attend un homme qui ne va pas venir. Et Voyez comme on danse, c'est un duo entre un danseur qui est muet et une femme qui parle. Il y a un jeu de pouvoir.
Parle pour lui.
Oui. Ouais. Un jeu de pouvoir et de séduction, enfin, qui est complexe. Qui est un petit peu à l'image du tango, hein, mais pas que. Hein, et c'est un théâtre qui est très fort, hein, on en prend plein la figure. Hein,
Il paraît, je ne sais pas, je ne me rends pas vraiment compte. Oui. Mais...
Alors juste pour nos auditeurs, à quel point la danse, il y a de la vie qui est présente, c'est quand tu en parlais, Françoise, tu esquissais des mouvements de tango en même temps. Voilà. Alors, oui, voilà, le théâtre, la danse, c'est si important que ça, voilà. Enfin,
c'est
l'importance.
Capital.
Et puis, est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Est-ce que...
Alors, pour le théâtre, le nouveau projet, c'est de faire vivre Voyez comme on danse. Comme c'est un théâtre, enfin une pièce assez étrange, c'est pas super facile, donc ça demande du travail. C'est-à-dire voir un danseur de tango qui danse seul, voir une comédienne qui joue le rôle d'un homme et d'une femme. Bon, voilà, c'est un peu compliqué à vendre. Ça ne se vend pas comme quelque chose de drôle, quoi. Pourtant, c'est drôle en même temps. Enfin, j'ai peut-être un humour un peu décalé, mais il y a beaucoup de passages dits par Charo Beltrán qui me font bien marrer. Voilà. La danse, ouais, c'est primordial. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette importance du corps, donc de cette incarnation. Je suis pas un écrivain qui vit que dans la tête, quoi. J'ai besoin de que tout soit mis en jeu, que l'ensemble du corps soit mis en jeu. Et puis j'aimerais écrire comme on danse aussi. J'aimerais écrire comme on danse, en oubliant qu'on danse, en oubliant qu'on écrit, à être dans le bon rythme, à trouver le mot qui tombe juste comme un geste esquissé au bon moment. Enfin voilà, je voudrais écrire comme on danse.
Alors, vous parlez d'écriture. Un autre propos de Franck Bouys qui parle de l'écriture.
Oui, des fois les mots, ils sont... Il y a trop de sens derrière. C'est-à-dire, ils ont un... on voudrait en faire autre chose que ce qu'ils sont quand on écrit.
Alors là, je le rejoins complètement. D'ailleurs, dans son livre qui s'appelle Plateau, c'est ça, on lui a beaucoup reproché d'employer des mots techniques et des mots qu'on ne comprenait pas. Et moi, c'est ce qui me plaisait, justement. Je crois que j'avais compris ça. Il utilisait les mots comme pour le son. Je me souviens qu'il décrivait une herbe tout à fait banale, on dirait une mauvaise herbe, secouée par le vent, et il employait le mot juste, que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Mais ça faisait son, ça faisait sens, du coup. Le son suffisait pour qu'on ait l'image. Et j'aime bien ça, ça rejoint un peu ce que j'ai fait peut-être quand j'ai inventé des verbes, des tas de verbes. Au moment où les invités attendent la mariée et qu'ils commencent à s'inquiéter qu'elle ne vienne pas, ça commence à durer, et ils sont fous d'inquiétude, et d'un coup le langage porte leur inquiétude, et plus que leur inquiétude, le fait que tout va se mettre à déraper, quoi. Donc oui, les mots ont parfois trop de sens.
Les mots qui ont trop de sens. Alors, je vous propose un dernier propos que j'ai récupéré de cet entretien.
Il a une belle voix quand même, Franck Bouys. Il a une belle voix.
En plus. Voilà. Hein, sur comment on écrit, vous l'évoquiez tout à l'heure, à un moment donné, il faut peut-être un peu lâcher prise, quoi.
Quand on part en lecture, il ne faut pas partir... c'est comme un pêcheur qui est persuadé d'aller pêcher la truite et qui va se retrouver avec un brochet, avec un... On s'en fout, quoi. Il faut accepter de se perdre, quoi. Quand on lit, comme quand on écrit, il faut accepter de lâcher prise. Il ne faut surtout pas essayer de se raccrocher à des choses qu'on connaît. Il ne faut pas essayer de se trouver dans un livre.
Oui, il ne faut pas essayer de se trouver. Je me souviens, dans un festival, il y a une dame qui m'a demandé... qui m'a dit qu'elle voulait lire des livres qui lui ressemble, et donc avec des héroïnes qui faisaient tel métier, etc. Bon, j'ai trouvé ça très, très amusant, mais effrayant aussi, parce que justement, le propre de la lecture, c'est le grand voyage, quoi. On voyage, on découvre, on habite ailleurs, on ressent ailleurs, on rencontre d'autres personnes. Il y a des héros qu'on n'oublie pas, comme on n'oublie pas les gens qu'on a rencontrés en vrai, quoi. Anna Karenine... Je l'aime, quoi, cette femme.
alors quelques héros comme ça qui vous ont alors, accompagné ou qui vous ont poussé dans cet univers de l'écriture, peut-être.
Alors là, je ne sais pas, il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Ah, si, Emma Bovary, bien sûr. Claudine, quand j'étais plus jeune. Parce que Colette, ça a été le deuxième auteur qui m'a vraiment fait... complètement décollée, non pas de la réalité, mais j'ai vraiment aimé beaucoup ces livres. J'ai commencé par La Comtesse de Ségur quand j'étais très enfant, à me dire que c'était ça que je voulais faire, quoi, raconter des histoires et écrire des livres. Et justement, en parlant des mots, dans La Comtesse de Ségur, il y avait plein de mots que je ne connaissais pas, parce que j'étais toute petite, et puis parce qu'il y avait un vocabulaire 19e.
Oui, on est littérature
et, des 19e. Et plutôt que de les chercher dans les dictionnaires, je m'amusais à les repérer d'un livre à l'autre. Et au fur et à mesure de la lecture, le sens s'éclairait un tout petit peu plus. Il y avait par exemple le mot « zèle ». Elle l'utilise je ne sais pas combien de fois. Et au bout de la lecture de La Comtesse de Ségur, ça y est, j'avais pigé. Et j'étais toute contente de cette trouvaille. Et jamais je ne passe devant le mot zèle sans me souvenir de mes lectures d'enfant. Donc après, il y a eu
Colette.
Et
La Comtesse de Ségur que vous avez lue avec zèle.
Ah ben ça, c'est certain. Et bonheur surtout. Mais maintenant, je pense que ça me tomberait des mains. C'est, ça semble être la préhistoire, quoi.
C'est vrai que c'est très daté. Et puis bon, je pense que comme adulte, on a pas déjà, tout à fait la même lecture non plus.
Ouais. Déjà, Colette, j'ai relu Dialogue de bête il n'y a pas longtemps. Et j'étais un petit peu peinée de voir à quel point ça avait vieilli. C'est vraiment une langue... Voilà. Bon. Et après Colette, il y a eu Duras. Alors là, j'ai cru que j'avais jamais rien lu avant, quoi. Et que je lirais jamais rien après.
Mais ça c'est plus embêtant que vous n'ayez jamais rien lu. Sentiment que vous n'ayez rien lu avant.
Non, mais sérieusement, j'étais tellement enfouie dans cette œuvre que j'ai même eu peur à un moment de ne pas pouvoir écrire. Mais du coup, je me suis obligée à faire des pastiches. Je me suis mise à l'appeler la vieille. Bref, je l'ai désacralisée.
Affectueusement.
Parfois, un peu en colère.
Même un peu en colère.
Et puis après, ça va mieux. Je n'écris pas comme Marguerite Duras. Ouf.
Et quel titre de Marguerite Duras, plus particulièrement? Alors,
celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Emily L. Parce que c'est l'histoire de deux personnages qui sont à une terrasse de café et qui commencent à parler de l'écriture, comme on fait souvent chez Duras. Et puis, ils se tournent vers l'intérieur du café. Et là, ils découvrent deux autres personnages. Donc, ça se dédouble. Deux autres personnages. Et ils se mettent à nous raconter l'histoire de ces deux personnages. Emily, elle, dite la petite iguane, et le capitaine. Et Emily, elle, a écrit des poèmes et le capitaine ne supportait pas qu'elle écrive parce qu'elle se mettait à le quitter dans l'écriture. Voilà. Et puis le livre se referme sur ce café. Les deux personnages du début rentrent chez eux. Les deux personnages du début, on comprend que c'est Marguerite Duras et Yann Andrea, mais on s'en fout. Elle a écrit l'histoire de ma vie, il n'existe pas et ça me va très bien comme ça. Et le livre se referme sur on doit tout laisser dans l'état de l'apparition. Donc de cette chose qu'on projette en avant et qui un jour s'appelle un livre, un roman. Voilà.
Alors, juste rapidement, peut-être quelques mots. Il y a donc un scénario de cinéma qui est en travail, d'après ce que j'ai compris. Alors, et puis vous venez de mentionner un personnage d'iguane, vous venez de parler d'iguane. Un petit iguane. Et alors, c'est comme quoi il y a des correspondances inattendues. Parce que dans l'invention de la neige,
oui, c'est vrai.
On a un lézard qui intervient de façon bizarre. Et ça m'a fait tout de suite penser à La Nuit de l'Iguane, le film de John Huston. Alors, rapport avec le cinéma.
Mais je suis contente que vous ayez pensé à ça.
Alors, le cinéma, mots.
Le cinéma, bon, c'est un projet de scénario. Il faut que j'écrive le traitement. J'ai inventé une histoire et voilà, il faut que je m'en dépatouille. Alors... Je disais hors micro, c'est une écriture que je trouve un peu frustrante, l'écriture cinématographique. En tout cas, le traitement, c'est-à-dire le traitement, c'est la première étape avant le scénario. Donc, on doit dérouler son histoire de bout en bout, mais sur 20 ou 30 pages. Alors ça, déjà, c'est une première difficulté, parce que moi, j'invente l'histoire au fur et à mesure de la plume.
Okay.
Au fur et à mesure de la plume. Et là, il faut tout inventer pour commencer vraiment le projet. Donc ça, c'est pas possible. Et ensuite, je ne peux pas rentrer dans l'écriture. Ce qui me fait avancer, c'est rentrer dans l'écriture. Une fois que j'ai les mains dans la pâte, le gâteau va prendre ou pas, quoi. Donc, tandis que là, il faut que j'imagine le gâteau et que je le fasse cuire avant même d'en avoir envie. Quoi.
Bon, et bien alors, une proposition, quand le gâteau sortira du four, vous nous faites signe, et puis on se revoit et on le déguste. Merci Anne Bourrel de nous avoir rendu visite.
Merci à vous.
Merci à François Jarousse.
Avec plaisir.
Et merci Bruno Bertrand pour la technique, et rendez-vous la semaine prochaine.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.